À Rencontre aujourd'hui, il sera question d'un Québécois, un jésuite québécois qui est mort martyr et dont on ne parle pas. Oh, il y a des gens qui prétendent qu'il n'est pas mort martyr, mais c'est bien l'opinion du père Antonio Dragon qui a écrit sa vie. C'est le père Prosper Bernard qui a été assassiné bêtement par des Japonais, en particulier un Japonais, en Chine, en 1943. Donc, c'est assez récent. Et il est mort à 40 ans. Père Bernard a été tué, donc, en Chine, par des Japonais en 1943. Et la nouvelle de la mort de ce martyr a été noyée dans les horreurs qui survenaient à cette époque de la guerre. C'est passé presque inaperçu du public. Et son histoire aurait pu ne laisser aucune trace. Mais heureusement, il y a des documents abondants, des écrits qu'il a laissés. Durant sa vie assez brève, il est mort à 40 ans, comme je vous ai dit, et il a écrit presque quotidiennement des choses, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a laissé une histoire d'une âme. C'était un homme profondément surnaturel que ce jésuite. C'était un jésuite fervent, un jésuite même austère dans sa vie intérieure, mais toujours souriant. Une sorte de saint, au fond. Il avait, le père Prosper Bernard, un souci constant du détail. Et il fallait que tout soit parfait dans les choses qu'il faisait. Je vous ai parlé de son sourire. C'est extraordinaire, il avait toujours le sourire sur les lèvres. Il y a d'ailleurs une très belle photo où il est vêtu un peu comme un Chinois. Il a ce beau sourire. Sourire naturel, sourire de grâce, un sourire qu'on a même retrouvé sur son visage reposé après qu'il est tombé là, sous les balles d'un Japonais pour l'amour de son Seigneur Jésus. Eh bien, ce sourire semble refléter une âme établie dans la paix. Mais ça c'est difficile, hein, s'accommoder de tous les tempéraments. Ça prend une grande souplesse pour s'accommoder de tous les tempéraments. Il a pratiqué des vertus extraordinaires. Ça lui est devenu apparemment si aisé de vivre avec les autres qu'on a envie son calme puis la force tranquille de sa volonté. Le père Prosper Bernard, moi qui ai fait mes études chez les jésuites, je trouve que c'est un vrai jésuite. J'en ai connu comme ça. C'est merveilleux, un vrai jésuite. C'est grand. C'est d'ailleurs l'idée que ses plus intimes amis se sont formés de cet homme, qu'ils ont coudoyé, là, sans toujours soupçonner toute la richesse de son âme. Une âme un peu trop secrète, peut-être. Et en découvrant cette âme du père Bernard que ses écrits révèlent, on pense, je vous l'ai dit, à Sainte Thérèse Enfant Jésus. Hein? Personne ne s'est douté de tout ce que le père Bernard a souffert, et personne n'a donc pu apprécier à sa mesure la grandeur de sa vertu. C'est un peu comme pour Thérèse l'Enfant Jésus, hein? La sœur qui disait, je me demande qu'est-ce qu'on va écrire à son sujet. Mais elle a beaucoup souffert, Thérèse l'Enfant Jésus, mais c'est la même chose pour lui. Et c'est bien trop vrai, hein, que trop souvent et trop vite, on classe les hommes, les femmes, d'après leurs gestes, puis les réactions extérieures, et nous jugeons sur l'apparence. Hein. Le père Bernard ressemble donc à la petite Thérèse, qui ne s'est révélée au monde que par l'histoire d'une âme écrite par elle-même. Je rappelle le titre, l'histoire d'une âme écrite par elle-même, c'est pas tout le monde qui a lu ça, mais ça a été lu par des millions de gens. Ça a converti des millions de gens aussi. Chaque page de son journal au père Prosper Bernard est un cri qui monte vers Dieu. Un cri qui monte vers Dieu pour en faire descendre sa miséricorde. D'ailleurs, comme le rappelle le père Antonio Dragon en citant Newman, dont je vous ai déjà parlé, Newman disait « La vraie vie d'un saint est dans ses écrits ». Il n'était pas le premier à le dire. Quelqu'un d'autre l'a dit avant lui, et c'est saint Jean Chrysostome. Il écrit, il y a des choses merveilleuses que le père Bernard a notées peu après sa prêtrise. Il écrit « Soyez encore béni, mon Dieu, de ce dessein dont je ne calcule ni la profondeur ni la portée, mais dont j'admire la providentielle efficacité. » Vous remarquerez son style, il a un style admirable, c'est un écrivain. Je crois que c'est un de nos grands écrivains. Je vous avais déjà parlé de Sœur Jean-Baptiste des Sœurs de la Providence, qui a écrit des livres dans un style intelligent, intéressant, et voilà que ce jésuite écrit encore mieux peut-être. Il écrit donc « Soyez encore bénis de ce dessin, dont je ne calcule ni la profondeur ni la portée. » C'est après son ordination, mais dont j'admire la providentielle efficacité. Cette sérénité extérieure était peut-être aussi un moyen d'amener la paix dans mon âme. Et, comme le remarque le Père Dragon, il dit, à force de paraître calme, on finit par l'être un peu. Qui aurait pu soupçonner que sous la douce figure de ce Père Prosper Bernard, il y avait une âme si mobile, si tendre? Il vivait continuellement sur un pied de guerre au fond, comme s'il était dans les tranchées au temps de la guerre 14-18. Là. On sait qu'il ne refuse rien à Dieu et on admire et l'on envie cet air d'aisance qu'il s'est donné dans une pratique extraordinaire des vertus les plus austères. Il aspire à partir pour la Chine, c'est son rêve. Revenons à la famille du Père Bernard, très connue à ce moment-là dans la vallée du Richelieu. Elle est connue même depuis 2 siècles, et plus de 2 siècles et demi. Elle a donné à part un évêque, elle a donné une 30aine de prêtres et même plus de 100 religieuses. Cette famille des Bernard est très connue. Georges Bernard, qui était le dernier enfant d'une de ces nombreuses familles de paysans qui ont bâti notre peuple québécois, il hérite de la ferme paternelle qui est située en bordure de la rivière dans la paroisse de Saint-Basile-le-Grand. Et Georges Bernard épouse en 1899 Amanda Moquin de Saint-Grégoire-d'Iberville, et les nouveaux mariés ont tous deux 28 ans. Après avoir eu un premier enfant, le 25 mai 1902, naît Prosper, c'est même le troisième enfant, lui. Troisième enfant, 3 ans. C'est un dimanche, et dans l'après-midi, bon, on le porte à l'église où il reçoit au baptême les noms de Prosper Émile. En 1903, la famille s'accroît d'un 4e enfant, Marie-Thérèse, puis d'une autre fille, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au 13e. Tant que le bon Dieu veut en donner, hein. Mais ils sont obligés, à un moment donné, de déménager à Sorel, puis quittent Sorel pour Chicoutimi, puis finalement Bagotville. Ce qui aide le Père Bernard à monter vers Dieu, c'est l'appel à la vie missionnaire. Dans la grande aventure où il s'engage, là, on peut suivre comme ça, pardon, comme sur un graphique, les mouvements de l'action de Dieu dans son âme, ce qu'on appelle la grâce. Car c'est pas d'un seul coup d'aile que le Prosper Bernard s'envole vers le ciel comme un aigle. Dans le calme de ce qu'on appelle le troisième an de noviciat chez les jésuites, il retrace l'origine et l'évolution de ses désirs de se consacrer aux missions en Chine. Dès ses premières années de collège, l'idée a germé dans son âme. Et tout le long de ses études, il est souvent poursuivi par cet appel. Il croit vraiment que cet appel vient de Dieu. Puis il entre chez les Jésuites le 6 septembre 1922. Il est disposé à se laisser guider par les supérieurs. Comme dit Emmanuel Mounier, il est plus sûr d'obéir que de désobéir. Mais gardant au fond de son âme, toujours, se penchant pour les missions, mais il s'offre pour la Chine. Et pendant ses années de philosophie, il suit les cours de langue chinoise qu'on donne aux scolastiques destinés aux missions. Vous savez qu'il y avait un grand scolasticat des jésuites, rue Rachel, à la paroisse de l'Immaculée Conception, que malheureusement, paraît-il, les jésuites abandonnent, là. Que c'est triste. C'est une rude épreuve pour notre Prosper Bernard à cette époque. N'en dis-moi personne. Il constate, malgré ses efforts, qu'il n'avance pas dans l'étude de la langue chinoise, qui est trop difficile, puis il conclut, après 2 ans de travail presque inutile, qu'il n'y a pas d'aptitude pour les langues. Il a fait allusion, d'ailleurs, dans son journal, aux peines profondes qui l'ont torturé dans la vie religieuse, puis en voilà une. L'étude de cette langue, difficile, et paraît-il très belle. Il persévère quand même, il continue de s'intéresser aux activités missionnaires. Puis là, il est nommé finalement professeur au collège d'Edmonton. Et il se dans l'Ouest, il se découvre des talents d'éducateur. Puis il en vient à penser devant Dieu que la vocation missionnaire qu'il veut toujours là, n'est pas pour lui. Il s'offre à passer sa vie dans l'enseignement plutôt. Et quand il revient à Montréal pour commencer sa théologie, il a 30 ans. Rien n'a transpiré de ses secrets. Le préfet des études lui demande d'orienter ses travaux vers le droit canon. Pas drôle, le droit canon. Pas drôle du tout, hein. Oh, il y a des gens qui aiment ça. Et le père provincial des Jésuites songe à l'appliquer plutôt aux études de philosophie. Finalement, il arrive au troisième an, comme on dit toujours chez les Jésuites, là, et assez désorienté, mais toujours prêt à répondre aux appels de Dieu, et le père Prosper Bernard commence sa grande retraite d'un mois, très important dans sa vie, dans la vie de tous les Jésuites. Il compte bien se signaler au service de celui qu'il aime, notre Seigneur Jésus, en travaillant à étendre son règne dans le monde, et peu à peu, cette pensée d'aller en Chine le reprend, ça recommence. Et comme l'affaire engage toute sa vie, ben il établit, selon la méthode de Saint-Ignace, le fondateur des Jésuites, Saint-Ignace de Loyola, il établit le bilan des raisons pour et contre la vocation missionnaire. Les objections se réduisent à 2. Oui, 2. Il y a d'abord les difficultés de la langue chinoise, qu'il juge insurmontables. Puis, se remettre à l'étude du chinois lui apparaît comme une torture. Il y a aussi ses aptitudes pour l'enseignement, qui l'ont amené à croire depuis 6 ans qu'il est peut-être fait pour les collèges. Il y avait beaucoup de collèges de jésuites dans ce temps-là. Hein? Quand on pense que les jésuites avaient 5 collèges, 5 grands collèges, ils les ont tous perdus. Prions pour les jésuites pendant cette émission. Les jésuites qui me sont très chers, auxquels je dois énormément. Nous sommes des milliers à devoir aux jésuites. Notre formation et leur dévouement et tout ça, leur exemple. Les missions, comme celle de Chine, ne l'attirent pas tellement au point de vue humain. Mais il sent que le bon Dieu lui demande de tout sacrifier pour lui. Puis il accumule les motifs en faveur des missions. Alors il plaide contre lui-même, puis il rappelle ses désirs d'enfance et de jeunesse. Les consolations intenses qui l'ont enivré. Durant le troisième an, là, à la pensée de l'apostolat lointain, et là, le père Prosper Bernard se trouve peu d'aptitude pour la prédication, mais une certaine facilité pour enseigner le catéchisme, et là, il constate en lui des dons d'affabilité. On voit par son sourire cette grande affabilité, ton savoir-faire général, de l'habilité dans le travail manuel, tout ça lui serait utile en pays de mission. Puis vient le grand motif qui détermine son choix définitif. Il dit, c'est la nécessité de mieux en mieux comprise d'aller contre le désir des sens. Et il ajoute, par nature, je suis sensible, incliné à abandonner devant trop de difficultés. Mais il va surgir comme un saint, vous allez voir. Alors, nous retrouvons le père Prosper Bernard, ce Québécois, après, il est en Chine. Il achève son stage à l'école de chinois de Pékin. Il a déjà 37 ans. Sa vie s'est déroulée jusqu'ici dans un cadre assez simple. Il a fait qu'une seule chose, il a étudié. Les jésuites, vous savez, étudient très, très longtemps. Dieu lui a fait un cœur, heureusement, il est chanceux, un cœur débordant de tendresse. Heureux sont ceux qui ont ce cœur. Il a aussi comblé son esprit d'une grâce spéciale d'intelligence. Une intelligence qui lui montre, comme à découvert, l'action divine dans le monde. Il voit l'action de Dieu dans le monde. Il saisit ça. Il est sensible à ça. Il est en action de grâce. Et le père Bernard a, on dirait comme le sens de Dieu, qu'il devine sans effort, caché là, sous les choses, les événements partout. Il le voit. À travers ce qui tombe sous ses yeux, il saisit toujours une idée qui l'élève. Et finalement, qui le porte à prier, à rendre grâce, à remercier Dieu. En lisant ses écrits, on est frappé de cette tournure continuelle, habituelle de son esprit. Au contact des choses qu'il regarde et qu'il écoute, là, la sensibilité du père Bernard se met à vibrer. Et dans le monde sensible, il voit le reflet de la pensée divine qui est déposée comme dans un... On dirait dans une énigme transparente. Là, il voit Dieu en tout. C'est un voyant. Il est saisi de cette grande grâce qu'est l'émerveillement. Si nous étions tous des émerveillés, des éveillés, quoi, comme on dit en spiritualité orientale, nous changerions le Québec, nous changerions le Canada, nous changerions l'Amérique du Nord et le monde entier. Si l'on n'avait que des yeux de taupe, on serait vite désorienté puis désemparé. C'est souvent ce qu'on a, des yeux de taupe. Heureusement, nous voyons, nous. Nous avons la grâce. Profitons-en. Nous voyons par-delà les choses visibles, la main de Dieu, comme on dit, qui nous guide. Dieu nous guide de cette douce main maternelle. Cette main qui conduit son Église à travers les épreuves. Souvent par un chemin sanglant, comme on va le voir tout à l'heure. Mais le conduit vers la perfection terrestre, qui est sagement déterminée par Dieu lui-même. Et tout ça mène l'Église vers l'apothéose du ciel, où l'Église est triomphante et acclamante. Elle est dans la splendeur, l'Église, au ciel. Elle a été miséricordieusement préparée. Parmi nos angoisses et nos efforts, malgré nos fautes et nos faiblesses, et nous espérons tous, je l'espère, être là dans cette église joyeuse au ciel. Le père Bernard est témoin de bien des tristesses, d'accord, mais il n'en est jamais écrasé, il n'est jamais désespéré, il constate les choses. Il y a des gens qui, dans la conversation, m'entendant constater des choses pénibles qui me font souffrir, croient que je suis pessimiste, mais je ne suis absolument pas pessimiste, pas pour du tout. Sans ça, je ne ferai pas ce que je fais tous les jours. Je ne travaillerai pas 60, 70, 80 heures par semaine. Le mystère déconcertant de cette masse païenne qui est si lente à se convertir au Christ ne le porte qu'à prier. Il faut prier, hein, avec une confiance inlassable. Un soir de Noël, il aperçoit de sa chambre d'étudiant de Pékin les lueurs là, qui filtrent à travers les fenêtres des rares églises catholiques de la grande ville de Pékin. Une pensée surgit en lui. Ici, à Chabanel, nous célébrons, écrit-il, la Noël autour d'une petite crèche chinoise. Et dans cette immense ville païenne, Pékin, nous sommes perdus, comme des points minuscules sur une carte géante. Une dizaine de chapelles ou d'églises forment dans Pékin des points lumineux, d'âmes priantes parmi la masse obscure, des brindilles de flammes dans une forêt. Que Dieu porte partout ses étincelles de foi, ses flamèches de charité. Alors, un jour, toute la forêt flambera d'un grand amour lumineux et chaud. Le Christ n'est-il pas venu allumer le feu sur la terre? Que j'aime sa façon de dire les choses. C'est beau, c'est très beau. À la vue des pagodes qu'il visite dans les environs de Pékin, le père Prosper Bernard est saisi de pitié. Il entend comme des voix qui sortent des ruines, des voix qui appellent le Dieu inconnu, seul capable de satisfaire l'âme religieuse de son peuple chinois. Il écrit dans la campagne, le décor est assez terne de ce mois d'avril 1939. La terre grise, assoiffée depuis l'automne, se lève en nuages légers et rapides à la moindre brise ou au passage de nos roues de bicyclette. Inutile d'entamer la conversation avec les bons paysans, surpris de nous voir passer sur les sentiers de leur campagne muette. Notre langue est trop gourde et ces pauvres gens trop occupés. C'est dans les pagodes que nous pouvons faire l'épreuve de nos progrès en chinois. Les champs sont parsemés de ces enclos, plus ou moins vastes, suivant l'importance du bourg. Il ajoute, la plupart des temples qui s'y dressent sont abandonnés. Quelques-uns gardent un peu de vie. Un bonze ou un vague gardien qui conserve les clés nous fait visiter. À la fin, il tend la main. À le voir en guenille, ce pauvre, on voudrait faire une large aumône. Alors nous glissons au moins quelques sous, ajoutant, plus précieuse, une prière, que le Seigneur vienne donc enfin au secours de ces âmes qui nous semblent vides de la présence de Dieu. Vous souvenez-vous, écrit-il, de ce que dit l'évangile des premiers broussards? C'était notre Seigneur lui-même qui les avait envoyés faire leur coup d'essai dans la brousse païenne de Samarie, chez les Samaritains. À leur retour, il semble qu'ils avaient un peu perdu la tête, tant leur succès les avait consolés. Or, moi, dans la tournée du district de Tangshan, je n'ai peut-être pas perdu la tête, mais j'en ai rapporté une brassée de consolation. J'ai fait 375 baptêmes, presque tous d'adultes bien préparés, sachant leur catéchisme et pleurant de ferveur. Au moins 1500 confessions et autant de communions. J'ai donné des sermons, des catéchismes, des causeries sur la religion, sur les desseins, les projets de la Providence qui permet la misère actuelle, etc. Et toute la journée, j'avais fait, dit le père Prosper Bernard, l'examen de catéchisme préparatoire au baptême. Vers 5 heures, on commence à leur donner le baptême. Moi, je m'occupais des hommes, le père Bégin, lui, baptisait les femmes. Disposés en une seule ligne circulaire autour de la cour intérieure d'une grande résidence de Richard, hommes et écoliers, les mains jointes, suivaient en silence les cérémonies. Que demandes-tu à l'Église? Je demande le baptême. Qu'est-ce qui te donnera le baptême? Il me donnera l'entrée à la vie éternelle. La question, écrit le père Bernard, est posée à chacun en chinois et chacun répond à son tour. Il en est qui donnent leur réponse avec une telle ferveur qu'on ne peut ni vous pas voir une motion intérieure de la grâce de Dieu. Quand on a posé les questions préliminaires, on continue les diverses cérémonies, et c'est lorsqu'arrive enfin le moment de verser l'eau qu'on se sent pénétré de je ne sais quelle impression, où se mêlent crainte et consolation. Tous, à genoux, renouvellent leur acte de contrition. Ils savent très bien que les grâces sont proportionnées à la ferveur. Renonces-tu à Satan? Aux superstitions, crois-tu en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Ah, écrit le père Bernard, vous ne sauriez croire, comme elles sont prenantes ces questions posées en leur langue, à ces vieux païens. Renoncer à Satan, c'est prendre toute leur vie passée et la condamner? C'est s'arracher à toute une vie d'habitude, à tout un milieu idolâtre? C'est un déchirement. Nous allons retourner maintenant à cette messe des Jésuites de Pékin, des 16e au 18e siècle, de Joseph-Marie Amiot. Vous savez, quand il demande la Chine comme terrain d'apostolat, le père Bernard, c'est un peu parce que son départ va couper les derniers fils qui le rattachent à ce monde, qui rattache son cœur de chair. Il veut s'offrir totalement. Et pour aller jusqu'à la perfection de l'offrande, eh bien évidemment que ce jeune jésuite, à ce moment-là, supplie le bon Dieu de l'aider. C'est pas facile se refaire à 35 ans quand on part comme ça. Jusqu'à la fin, il va donner tout ce qu'il possède, les tendresses de son cœur à ses parents et à tous ses chers Chinois, car il écrit beaucoup de lettres à ses parents. Tous les moments de ses jours, il va les donner à sa petite église de la brousse en Chine. Toute sa vie, il va offrir le sacrifice de ses goûts. le martyr de la réclusion dans sa prison à la fin de ses jours, à Fengxian. Il va offrir tout le sang de ses veines, qu'il a souvent offert à notre Seigneur, qu'il appelle d'une façon assez curieuse son terrible amant. C'est une sensibilité vibrante que celle de ce Québécois jésuite. Une volonté qui ne transige pas. Ce sont les deux traits saillants du père Prosper Bernard, ce grand jésuite ignoré. Ce sont deux forces qui s'affrontent sans cesse en lui dans une bataille où les exigences de Dieu, heureusement, l'emportent toujours. Et d'ailleurs, dans la vie de père Bernard, ce qui compte surtout, c'est le père Dragon, Antonio Dragon, qui le dit, puis il le dit bien, il a bien raison. Ce qui compte surtout, c'est la physionomie et l'histoire de son âme. Le reste n'est qu'un cadre d'événements intéressant, parfois dramatique, mais qui peut convenir à tous nos extraordinaires missionnaires jésuites et autres qui sont allés en Chine, ni qui sont allés partout dans le monde. Quand on y pense, notre pays a fourni tant de saints, de saints que l'on ne connaît pas. Je signale qu'il a été ordonné prêtre dans l'église du Jésus, où hier il y avait une grande célébration en l'honneur du 350e anniversaire du martyr de Saint-Jean de Brébeuf et des autres martyrs canadiens qui sont des saints canonisés. Il a été ordonné là au Jésus le 18 août 1935. Et quelques jours plus tard, le 12 septembre, moins d'un mois après son ordination, il note qu'un sentiment de solitude et d'abandon l'envahit. Il dit « Mon âme me semblait se couvrir d'une nappe noire, froide comme une crêpe, comme un crêpe plutôt, pardon. Un crêpe, c'est un tissu noir qu'on suspendait aux portes pour signaler qu'il y avait un mort exposé dans la maison. » Il dit « Un dégoût de moi, une vague impression de crainte me saisit. Tandis que je crois descendre dans une fosse froide, humide, seule, c'est peut-être un miséricordieux rappel à la vie intérieure, à l'oubli du monde, à un amour plus spirituel envers les miens. » Il s'écrie vers Dieu justement « Ô Dieu, faites en moi le vide, j'y consens, pour me remplir de votre seul amour. » Aimeriez-vous que je répète cette belle prière d'un Québécois jésuite? Si belle. Ô Dieu, faites en moi le vide, j'y consens, pour me remplir de votre seul amour. Mettez-moi aux abois, afin que je n'aie plus qu'une seule voie pour fuir votre amour. Donnez-moi seulement votre force pour subir ma petite passion et monter mon chemin de croix. » C'est un homme émouvant. Père Bernard ne craint pas de pousser d'ailleurs à la sainteté, même ses correspondants quand il est en Chine, et qui vivent au milieu du monde, ici, au Québec, ou ailleurs. Il écrit à une femme, « Votre mari est donc encore éprouvé? Je commence à croire que le bon Dieu l'aime beaucoup, puisqu'il lui donne, comme à vous, tant d'occasions de vous perfectionner. Ne laissez pas passer cette manne sacrée de l'épreuve sans la récolter. Elle est un peu amère au goût de notre nature qui n'aime pas la souffrance. Mais elle n'en est que plus efficace pour nous guérir de nos caprices trop naturels et pour disloquer nos attaches trop fortes à cette misérable terre. C'est comme la bonne iode forte du bon Dieu sur nos bobos au vif. » Vous souvenez-vous, quand on était jeune, on nous mettait de l'iode. Évidemment, on ne peut s'empêcher de dire dans les moments, écrit-il, où la vieille nature en a assez, et tous nous passons par quelques-uns de ces moments-là, ajoute-t-il, « Ah, comme je serai bien dans ma tombe! » Il n'y a pas de mal à ce que ces pensées passent par la tête, dit-il. Mais ne nous déprimons pas à force de les ruminer et ne refusons ni le combat ni le travail que Dieu nous impose pour notre mérite, en nous laissant par sa puissance dans la vie. D'ailleurs, il ajoute toujours Dieu, en abondance, à côté des épreuves, dans les épreuves mêmes, les secours de sa grâce, de sa présence. Peu importe qu'on ne sente pas cette continuelle infusion d'énergie divine dans nos âmes, comme on se rend compte d'une transfusion de sang, peu importe. Nous en sommes plus assurés par notre foi que si nous le voyons de nos yeux de chair. Il écrit aussi, « La douleur est dure. » C'est entendu. On n'est pas fait pour souffrir, mais pour jouir en notre âme et en nos sens. Au ciel, sans fin. Mais la souffrance est un mal qu'on peut tourner en bénédiction. Il suffit de l'orienter vers Dieu et de comprendre quelle est la monnaie qui nous achète les jouissances du ciel, dit-il. Si elle est pleine d'amour, hein, si tout ça est fait dans l'amour. Il dit, rappelez-vous plutôt la si belle préface de la messe des morts. Et dissoluta terrestris incolatus domo. Eterna in celis habitatio comparatur. C'est dans le ciel qu'est notre habitation éternelle. Et tout ce qui est de la terre sera dissolu. Notre pauvre demeure terrestre doit crouler dans la souffrance, dit-il, et par là, nous acquérir le palais éternel du ciel. Vous vous plaignez de perdre votre temps, écrit-il à une religieuse en 1938, de trépigner comme Marthe. C'est déjà une grâce, ma sœur, de vous en rendre compte. Que le bon Dieu vous fasse sentir plus profondément cette vérité. Rien ne plaît au Seigneur, rien ne fait progresser autant qu'un cœur dilaté. À la fin d'une lettre que le père Bernard écrit au père de Shanghai pour leur présenter ses souhaits, il ajoute « Quelle que soit l'année 1943 au point de vue historique et charnel, il est sûr qu'elle sera d'or, D'OR, pour nous. » Il écrit ça le 2 mars. 16 jours plus tard, eh bien, ce père Bernard, prisonnier de Fengxian, va faire vraiment une affaire d'or. Après seulement 5 années de Chine, à 40 ans, il va recevoir au centuple salaire promis. Vous connaissez ça dans la Bible, dans l'Évangile, le salaire promis à l'ouvrier fidèle. Et il va échanger son poulailler, comme il appelait sa prison, pour le royaume du ciel. Le fameux banquet qui devait assurer la vie de l'école qu'il avait fondée, tombe hélas le jour du mois où les Japonais, dans leur territoire occupé de la Chine, ont commandé des fêtes commémoratives. Et depuis le 9 décembre 1941, 2 ans plus tôt, jour de la déclaration de guerre aux Nations Unies, au lendemain de Pearl Harbor, les Chinois devaient, le 9 de chaque mois, souligner le grand événement. Obligatoire, sous l'oppression des Japonais. En 1943, le Japon était encore bien fier, se disait assuré de la victoire. Mais malheureusement, les Jésuites ont fait une autre sorte de fête ce jour-là. Et le Kuwen, Kuwen, ça s'écrit K-U. C'est un civil japonais qui est placé par l'autorité japonaise dans toutes les villes puis les villages de la Chine occupée là, pour imposer les volontés des Japonais au gouvernement chinois. Or, c'est lui qui va tuer le père Prosper Bernard, ce Kuwen. Par ordre du Kuwen, c'est ce qu'on lit, nous épinglons sur vous, c'est la persécution qui commence, nous épinglons sur vous ces grands papiers. Et vous irez parle aux Jésuites, ainsi dans les rues, les inscriptions qui portent ces mots « Ennemis, abat l'Angleterre et l'Amérique ». Écoutez bien, la mission de l'Église catholique asservie ou dominée par l'Angleterre et l'Amérique. On accuse l'Église d'être asservie, d'être dominée par l'Angleterre et l'Amérique. Et sur cette dernière inscription, le père Bernard fait remarquer au Kuwen que, dit-il, nous voulons bien subir, comme homme privé, cette injure, mais que l'inscription est une fausseté qui insulte toute l'Église catholique. Il déclare au Kouen, écoutez bien ça, c'est la parole d'un futur martyr, « Nous ne pouvons pas porter cela, plutôt mourir. » Alors le Kouen s'irrite évidemment. Ce japonais est en colère. Et de sa canne, à deux mains, me frappe à la tête, écrit le père Prosper Bernard. J'ai failli tomber. M'étant remis, les soldats nous amènent. Les tambours et les clairons sonnent. On fait le tour de la ville parmi la foule qui pleure. Alors à deux reprises sur la route, il y a un Chinois qui a une bonne voile qui fait un discours au peuple. Il accuse les pères d'avoir convoqué une assemblée anti-japonaise. Et, sous le couvert de la religion, bien de faire de l'espionnage et de troubler le peuple en semant de faux bruits, le peu de gens qui suivent le cortège sont tous attristés. Alors, il y a des femmes, des enfants qui pleurent. Les gardes eux-mêmes se comportent avec beaucoup de respect. Et le père Prosper Bernard écrit « Nous revenons à la prison ». Le lendemain, à 10 heures, les soldats nous lient encore par les bras. On fait la même procession que la veille. Et voilà que ça se continue comme ça. Le martyr à petit feu. Dans la seconde partie de sa lettre au général des Jésuites, au général japonais, le père Bernard résume les accusations portées contre les pères par le fameux Kouen. Alors, les accusations, le soir même de l'arrestation, le Kouen nous dit, vous avez eu un banquet, c'est une action d'ennemi. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le banquet. Le lendemain matin, il ajoute, vous êtes prisonnier, donc vous devez agir en prisonnier. Donc, pas de banquet, ce n'est pas permis. Un banquet le 9 du mois, c'est une activité ennemie. Vous devriez vous affliger, vous, ce jour-là, sur la rue pendant la procession, ne saluez personne. Au banquet, vous avez invité les autres, les Chinois, et vous ne m'avez pas invité, moi. Et l'après-midi, avant la procession, le Kouen nous dit, écrit le père Bernard, « Sachez comment on traite les Japonais, prisonniers aux États-Unis et au Canada. Vous savez ce qu'on leur fait? On écrase les enfants sous les tanks au Canada et aux États-Unis. On les soumet aux travaux forcés. Votre religion, elle est défendue. » Je vais la détruire, votre religion, dans Fengxian, le village où il y a la prison. Vous, vous êtes des espions de vos gouvernements. Dans l'exposé que le père Bernard fait des faits, il n'insiste pas sur la haine du Kouen pour la religion. Parce qu'il adresse sa lettre au général japonais, alors il veut pas l'indisposer. Mais d'après les informations les plus autorisées, c'est là qu'est le cœur de cette histoire, le vrai motif qui a porté le Kouen à tuer les pères jésuites, trois pères jésuites, c'est sa détermination, inspirée sans doute par la jalousie, de ruiner à tout prix l'influence de l'Église catholique dans le secteur de Fengxian, et c'est ce qui fait de ces trois jésuites des martyrs, à mon avis. Je ne veux pas aller contre les idées que l'Église peut se faire du martyr, mais je crois que ce point de vue me semble juste. La punition, voici ce qu'elle a été jusqu'à présent, écrit le père Bernard, procession des pères deux fois chargée de banderoles et de caractères anti-église et anti-anglais américain. Au son du tambour, châtiment ignominieux de criminels, de traîtres, infligé par le Kouen en personne, sans procès, sans interrogatoire, sans que nous ayons pu dire un mot de défense ou d'explication. Cette punition est la plus belle réclame pour nous, car toute la ville a pleuré avec nous, et maudit le Kouen, qui souille ainsi le bon renom de l'armée impériale japonaise dans Fengxian. Alors, il y a des jésuites d'origine allemande que les Japonais respectent et qui essaient de sauver les prisonniers. Le père Bernard, prisonnier, écrit à la mine sur une page de garde arrachée de son bréviaire une lettre à son évêque. C'est la dernière que nous ayons de lui. Ça commence ainsi, « Fengxian in carcere », c'est en latin, ça veut dire « en prison ». Samedi 13 mars 1943. Excellence, vous avez déjà appris par le père Han, A-N, un chinois, ce qui s'est passé. Le père Dinter, un allemand, vous donnera les détails actuels. Je veux assurer par ce mot, votre excellence, et le révérend père supérieur, que nous sommes en paix. Et le mot paix est souligné par le père Bernard. La paix, jusque dans la mort. Hein? Il ajoute pas un moment, le calme intérieur et extérieur ne nous a laissé, sauf au moment où il a voulu nous faire porter cette inscription, il, c'est le Kuen, Église a servi à l'Angleterre et aux États-Unis. Nous avons protesté qu'on nous battrait ou qu'on nous tuerait, mais que nous ne porterions pas une injure mensongère contre l'Église. Quant à nous, nous sommes presque dans la joie. Post-scriptum, pas de messe, pas de communion, hélas. Espérons recevoir communion sans danger dans un ou deux jours. Le 14 mars, un dimanche, un jésuite allemand apporte la Sainte Communion aux prisonniers. Dans l'après-midi, un autre jésuite allemand leur rend visite et prend avec lui la lettre du père Bernard au général de Suchoy. Et le soir même, les trois pères jésuites québécois quittent leur prison, emportant avec eux leurs bagages. On croit qu'ils sont libres. Grande joie, mais courte joie. Oui, courte joie. Le 18 mars au matin, les deux pères allemands quittent Fonxienne, persuadés que l'affaire est close, et le père Bernard rédige en chinois une lettre de remerciement à la police militaire de Suzhou, qui, comme ils ont jugé les pères innocents, les a fait relâcher, mais le reste de la journée se passe dans le calme, et là, on comptait sans la rancune du fameux Kuen. L'intervention du quartier général blesse sa vanité de petit chef et il décide de se venger. Et le 18 au soir, vers 9h, arrivent des soldats japonais. Puis il demande d'un ton violent, « Combien de prêtres ici ?»« 3. Alors en marche, suivez-nous. »« Où ?»« Suivez-nous. » »« Eh bien, laissez-nous le temps au moins de prendre nos chapeaux. » Et on répond, « Ce n'est pas la peine, vous n'aurez plus besoin de porter de chapeau, » leur dit le chef de la bande. Les trois pères partent donc dans la nuit, tête nue, mais ils ont compris. En chemin, ils se donnent mutuellement l'absolution. Et que s'est-il ensuite passé exactement? Bien, le soir du 18 mars, le Kuen, qui apprend que les pères jésuites sont libres, malgré lui, est entré en fureur, hein, il donne l'ordre d'aller les prendre pour les tuer, comme Hérode au temps de Saint-Jean-Baptiste, et le Kuen, à demi-ivre, saisit lui-même les pères jésuites par le bras, les entraîne dans une ruelle, et il les abat à bout portant, en commençant par le père Lalonde, puis le père Bernard, puis le père Dubé. Les pères Dubé et Bernard se sont mis à genoux pour recevoir la mort. Tous les témoignages soutiennent que c'est le Kuen lui-même qui les a tués. Vers minuit, on traîne les corps jusqu'à l'église. Au petit matin, les domestiques demeurant en ville aperçoivent les cadavres et font ouvrir les portes par les serviteurs qui ont peur là, à l'intérieur. Alors on couche dans l'entrée de la maison les trois pères horriblement tachés de boue et de sang. Et vers 5h, raconte un des pères allemands, j'arrivais de Paisin et j'ai trouvé les morts tels qu'on les avait laissés. Il était trop tard pour les laver et les revêtir d'ornements sacerdotaux. Alors de bonne heure, le lendemain, aidé de quelques domestiques, je me suis mis à l'œuvre et le père Li, L-I, puis le père Han et le père Dinter, un allemand, arrivèrent. Le sang coulait encore des blessures. Le visage du père Dubé avait un air très grave. Celui du père Lalonde marquait une souffrance terrible. Mais chez le père Bernard, absence de toute frayeur, quelque chose d'épanoui. Il avait 40 ans. Au milieu des larmes des chrétiens, nous avons placé les morts dans les cercueils que les fidèles avaient achetés de leur propre denier. Comme lieu de sépulture, on a choisi la chambre où avait vécu le père Bernard. Le père Han a dit la messe des funérailles, et c'est de lui qu'on tient le récit. Le récit d'extraordinaires prodiges qui ont marqué la mort du père Bernard. Dans une lettre à son évêque, datée du 1er avril 1943, il rapporte qu'une grande croix lumineuse est apparue dans le ciel et que même les païens l'ont vu et vénéré. Le tombeau de Fengxian est devenu bientôt un lieu de réconfort pour les pauvres chrétiens de la ville et des alentours. Et pendant que dans la Chine lointaine, les fleurs s'entassent près du tombeau, c'est la mère du père Prosper Bernard qui apprend la mort glorieuse de son fils. Elle va chercher aussi des fleurs qu'elle conserve dans le coffret de ses souvenirs, et elle retrouve la lettre de son fils Prosper qui lui avait adressée au premier jour de son noviciat en 1922. Il disait: « Maman, j'ai cueilli dans les grands parterres du Sceau récollet ces trois belles pensées que je vous envoie. Conservez-les, elles seront peut-être un jour pour vous un beau souvenir. » Et Madame Bernard, la maman de ce martyr, avait les doigts bien tremblants. Mais quand même, elle a pris les trois pensées. Elle est allée au salon les piquer au bas du portrait de son fils. Le père Prosper Bernard, dans tous ses écrits, a laissé de belles prières, dont celle-ci. « Seigneur, contre ces parasites de mon âme, ces microbes qui empoisonnent mon enthousiasme, fortifiez-moi. Je ne demande pas d'être délivré, car il est peut-être sage de me les laisser pour tenir l'humilité en haleine. Mais donnez-moi l'énergie de les mater. Laissez-moi l'enthousiasme essentiel, l'élan raisonné, et par-dessus tout, la conviction que je fais votre sanctifiante volonté. Car ce n'est pas avec un plâtre à statue que vous vous fabriquez vos amis. Oui, c'est dans la chair et les os de nos pauvres corps, dans le vif de nos âmes, telles qu'elles sont, que vous voulez tailler les reproductions de votre sainteté. »